18h précise, on entame la deuxième et dernière demi-heure de l'émission L'aérospatiale sur les ondes de CKRL. Julie Gagné avec vous, toujours accompagnée de Dominique Savoie qui nous fera sa chronique un peu plus tard dans l'émission. Toujours accompagnée aussi de Jacques Gignac à la mise en onde. Et en ce moment, je suis rejointe par François Chevalier. François Chevalier qui expose à la CERT en ce moment. Son exposition s'appelle « Méchant loup ». François, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Très bien.
Vous avez eu un gros vernissage hein, vendredi dernier, je pense.
Surprenant parce que je ne sais pas si vous vous rappelez de la température vendredi dernier.
Oui, c'était
comme,
assez...
comme un ouragan et ça a été fantastique. Même les gens de la galerie m'ont dit qu'une chance qu'il a fait ce temps-là parce qu'il aurait peut-être été dépassé.
Oui, on m'a dit en fait qu'il y avait environ 200 personnes qui étaient passées au vernissage. Ouais, c'est pas peu dire.
Oui, une température comme ça, oui.
Effectivement, félicitations.
Merci.
OK, première question, là. Méchant loup, c'est un jeu de mots?
Non.
Non?
Non.
Tout simplement, c'est parce qu'on présente un méchant loup dans l'exposition.
Oui, ça devient... je me suis beaucoup inspiré du travail de Tex Avery, qui est un animateur très célèbre, qui n'est pas connu, mais qui est très célèbre dans le sens que c'est lui qui a tout amené Bugs Bunny et Walt Disney. Il a toute une influence pour eux autres.
Les personnages de Looney Tunes, notamment.
Alors, moi, ce que je voulais, c'était... chercher un peu la parce que aussi je travaille à une CPE puis je lis des contes aux enfants puis le loup est toujours le méchant, tu sais, le mouton c'est le suiveux, le renard c'est le rusé, puis le loup c'est toujours le méchant, fait que c'est un peu la part de notre part de méchant un peu qu'on a en nous que j'ai voulu mettre de façon peut-être ludique avec une vidéo en partant et
ouais.
Une exposition complète.
En fait, pourquoi? Parce que dans le communiqué, en fait, ça disait que vous vouliez rendre hommage quand même à Tex Avery. Pourquoi à lui en particulier? Comment il vous a influencé?
Parce que Tex Avery, ça a été vraiment, comme je te dis, le premier qui a amené l'animation vraiment fluide. Où il y avait beaucoup d'expressions, où que le mouvement était extrêmement expressif. Qu'on a suivi après, comme je te dis, avec Bugs Bunny, avec Walt Disney. Mais le premier qui a fait ça, c'est Tex Avery.
Okay.
Alors, moi, c'est ça qui m'intéressait, mais ça me tentait de me réapproprier ce qu'il fait, puis le mettre de façon peut-être plus brute, plus contemporaine, plus angoissée, stressée, ce qu'on vit présentement.
Est-ce que, parce que vous parlez du loup, justement, comme étant la part sombre de l'humain, est-ce que vous cherchez un peu à nous confronter face à nos travers en regardant l'exposition?
Juste les présenter peut-être, montrer justement notre part sombre, la part sombre de l'humain, mais dit de façon un peu cartoon, un peu...
Oui, parce que par moment, en fait, bon, on reconnaît vraiment comme un dessin peut-être plus BDS, par moment, ça devient beaucoup plus expressif et le loup disparaît, mais l'émotion reste.
Oui, c'est un peu ça l'idée. L'idée, c'est avant tout, c'est de l'émotion, c'est de l'expression. Le dernier temps, fait longtemps, je fais des insectes, puis je voulais garder cette même fébrilité-là de l'insecte, mais en le transposant ailleurs. Puis c'est un flash. Moi, j'ai pas une démarche artistique coulée dans le béton. Je passe plus par les émotions, puis par ce que je ressens, puis j'ai eu le goût de faire ça tout d'un coup, puis je suis parti en fou, puis c'est ça.
C'est ça, hein, parce que vous faites des très, très grandes séries là, pour l'exposition, ben pas pour l'exposition chez la CERT, mais pour la série justement sur le loup. Je pense que vous avez fait plus de 1400 dessins.
Ouais,
il y en a une centaine qui sont présentés chez la CERT.
200, oui.
200, c'est encore plus que je pensais.
Mais c'est ça, ça fait que c'est 1300 dessins, mais qui sont faits spécialement pour le film. Alors, je n'ai présenté plusieurs dessins qui viennent c'est toujours film, ça veut dire vidéo. Dans la vidéo, j'en ai gardé que peut-être c'est pas loin de 200, mais dans le vidéo, il y en a 1300.
Ah oui, il y en a 1300. Et ça, cette vidéo-là, il dure une minute à peu près. Là,
non, il dure deux minutes et demie, mais
oh,
en
pardon.
Boucle.
OK, ça, je pensais qu'on m'avait dit une minute chez la CERT. Est-ce que c'est un prétexte, parce que quand on regarde les dessins du loup, en fait, puis même dans la vidéo, c'est encore plus flagrant, toutes les expressions, est-ce que vous cherchez à traiter une grande variété d'émotions humaines, dans une certaine mesure?
Oui, c'est exactement ça, mais c'est sûr que l'émotion la plus qui revient le plus souvent, c'est celle de rage, de frustration, de stress, et De tristesse aussi. Le pauvre méchant loup, des fois, il souffre aussi. Comme
ben ouais. Mais parlez-nous-en donc un peu de ce personnage-là, hein, du loup. C'est The Wolf, je pense, qu'il s'appelle, tout simplement. Là,
ouais, dans le...
Dans le film.
Mais c'est un peu la synthèse de tous les loups, de tous les contes et de tous les,
okay,
les films d'animation.
Départ.
J'ai choisi celui de Tex Avery parce que Tex Avery était vraiment le premier. Alors, j'ai choisi lui, mais en réalité, c'est n'importe quel loup représenté à travers le BD, les contes, les films d'animation et tout.
Puis, bon, c'est tous les dessins, en fait, présentent le loup. On sait qu'il y a quand même une répétition du motif. Est-ce que c'est pas un peu un travail qui est le résultat peut-être, je sais pas, d'une pensée qui roule constamment en tête, un peu obsédante?
Oui, c'est exactement ça. C'est une grosse obsession. C'est pourquoi aussi j'ai fait faire affaire avec Denis Gosselin comme percussionniste. Parce que moi, quand j'ai fait ce film-là, toutes les images que je faisais, j'entendais le beat de drum dans ma tête. Alors, j'ai demandé à un très grand percussionniste, qui est Denis Gosselin, qui a fait un travail magnifique, de me faire la musique là-dessus. Puis
un motif comme ça qui est, ben moi je vois le loup un peu peut-être comme un motif, comme une image, mais qui est répété constamment. Ouais. Est-ce que à force de le répéter, est-ce que ça perd du sens ou au contraire ça gagne en charge émotive ou en charge réflexive?
C'est surtout une façon de simplifier les choses aussi, de toucher vraiment le point que je veux toucher. Tu sais, si j'ai essayé, j'aurais fait une sorte de loup bizarre, là c'est toujours le même qui revient en quelque part. Alors c'est une façon tout simplement de simplifier puis d'expliquer que ce soit plus clair ce que je fais, tout simplement.
OK. Puis, bon, là, je change peut-être un peu de sujet. J'ai envie de parler peut-être du traitement, de la facture des œuvres dans l'exposition. Quand j'ai regardé cette exposition-là, j'ai senti qu'il y avait vraiment un intérêt très fort pour le travail de la surface, pour la texture. Bon, vous utilisez de la colle. Des fois, vous-même, vous comme lacérez carrément le papier.
Ouais.
Vous utilisez justement avec le grouillon, le goudron, même de la poudre, je crois, comme de crayons ou de graphite. Qu'est-ce qui vous pousse à travailler autant la surface?
Mais ce travail-là, c'est fait en deux étapes. Premièrement, il y avait la vidéo, qui, elle, est faite à 85% avec un petit bout de bambou effilé et de langue de chine noire, c'est tout. Puis les plus grands dessins, là, j'avais le goût de... Je voulais garder ça brut, puis j'ai voulu dire aussi dans une même image un mouvement, tu sais, comme s'il y avait plusieurs dessins dans une même image. Puis je voulais garder l'aspect brut et tout ça. Enfin, là, j'ai testé différentes techniques. Puis je voulais qu'on ait l'émotion, mais en matière aussi.
En matière, donc physiquement.
Pour ça qu'ils sont pas encadrés. Là, tu sais, j'ai voulu faire des boîtes pour que le monde sente vraiment la matière, tu sais.
Puis le goudron, ça fait quelques années, je pense, vous travaillez avec le goudron. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de travailler avec ça? Parce que ça reste quand même assez atypique comme choix de matériaux.
Parce que c'est sale.
Parce que c'est sale. Puis c'est aussi, c'est appelé à évoluer à travers le temps, là, parce que le papier imprègne.
Oui, non, ça bouge plus à un moment donné. Quand c'est sèche, ça l'arrête de bouger.
Okay.
Sauf que ce que j'ai fait de différent cette fois-là avec le goudron, avant, j'allais juste chercher... les spots, les teintes, puis que ça faisait le dessin. Tandis que là, pour la première fois, je l'ai lacéré carrément. Tu sais, puis le papier déchirait, le goudron sortait. C'était ça qui m'intéressait.
Ça fait un peu ressortir peut-être la part de noir, justement, dont vous parliez.
C'est le côté sombre. Oui,
ouais, l'inconscient qui en vient à déborder puis à craquer la surface. Aussi, dans le passé, vous avez travaillé avec l'estampe, vous avez travaillé avec la photo. Mais là, vous revenez au dessin. Vous avez dit même que vous aviez un sentiment peut-être plus particulier pour le dessin. Pourquoi?
Parce que c'est la base. C'est le basic, le dessin. C'est tout. Je me définis plus comme un dessinateur que d'autres choses. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le basic de la ligne, de la tâche et du dessin.
L'impulsion aussi, dans une certaine mesure?
L'impulsion est beaucoup plus rapide aussi. Puis moi, je ne suis pas du genre à toucher mes choses. Alors, c'est comme une grosse impulsion que ça sort tout d'un coup, bang, puis...
Puis quand vous travaillez, en fait, ça doit se faire à un rythme quand même très rapide parce qu'on sent une très, très grande spontanéité.
Ouais, c'est très rapide, c'est très concentré.
Combien de temps ça vous a pris de travailler, mettons, sur ce projet-là?
Oh, j'ai commencé au début janvier.
Début janvier, ouais. Puis là, on expose en octobre quand ouais. même pour ouais. un projet d'une très grande, très grande envergure.
Merci.
Ben, François Chevalier, je vous remercie.
Ben, merci
donc,
à vous.
Si vous êtes intéressé à aller voir l'exposition « C'est méchant loup », c'est présenté à la Galerie Lacerte jusqu'au 7 novembre. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo d'animation. Il
oui,
est dans
parce
un
qu'il
petit
évident, coin. Il n'est pas évident à voir.
Il n'est pas évident. Par contre, les gens chez Lacerte vont vous diriger ouais. Spontanément vers la vidéo d'animation, même dès le départ, quand vous arrivez. Si vous êtes intéressé aussi, il y a des chandails qui ont été faits, qui ont été imprimés oui. avec l'image du méchant loup.
Ça fonctionne bien.
Ça se vend bien, ah oui?
Je pense qu'ils ont vendu 40 au vernissage.
Bon, ben voilà, si vous voulez faire partie de la gang, allez-y, achetez-vous un chandail. Donc, François Chevalier, l'exposition Méchant loup présentée à la Galerie Lacerte jusqu'au 7 novembre. On s'en va en pause audio, on écoute un extrait de l'album « Tout le monde en place pour un set américain » sur les ondes de CKRL 89.1. Voilà, on vient d'entendre un court extrait de la pièce « En place ». En fait, vous savez, c'est tiré de l'album « Tous ensemble pour un set américain » de Xavier Charles, Christophe Carole, Diane Labrosse, Martin Tétrault. C'était un spectacle qui était présenté au Festival international de musique actuelle de Victoriaville qui avait, ma foi, fort ému notre chroniqueur Éric Dorion. Si jamais vous êtes intéressé à en apprendre un peu plus, c'est publié sur l'étiquette « Victo ». Étiquette, en fait, qui est relative au Festival international de musique actuelle de Victoriaville, surprenamment. D'ailleurs, ça me touche toujours quand on parle de cette ville-là. J'en suis originaire. J'ai toujours une certaine fierté. Voilà, on parle maintenant de ma vie à l'aérospatiale. Mais là, c'est le temps de jaser avec Dominique Savoie. T'es allé voir Tragédie fantôme de Caroline Guindon à la Galerie des arts visuels de l'Université Laval.
Exactement, oui. Caroline, en fait, c'est son projet de fin de maîtrise. Caroline a étudié au baccalauréat et à la maîtrise en arts visuels à l'Université Laval. Et donc, c'est vraiment dans le cadre de le dépôt, dans le fond, de sa maîtrise.
C'est donc un projet de longue haleine.
Exactement, travailler 2 ans là-dessus. Caroline, en fait, c'est une artiste qui travaille surtout, normalement, en fait, la photo. l'image, beaucoup avec l'aérographe, le travail aussi, création numérique. Et là, dans le cadre de son projet de maîtrise, en fait, elle décide d'en faire une œuvre installative, qui n'est pas du tout nécessairement une chose qu'elle fait normalement. Et ça a donc créé, en fait, plusieurs défis à relever. Et on m'a dit aussi que ça a été quand même assez long à monter pour la préparer, cette expo-là. Donc, l'expo se présente quand on arrive dans la salle. Il y a directement devant nous une espèce d'immense forme installée, une forme circulaire, qui, dans le fond, représente deux cercles imbriqués l'un dans l'autre, présentant 10 panneaux, immenses panneaux illustrés, donc 10 panneaux, 10 images. Et au centre de ce cercle-là se trouve une espèce de prisme, je vais dire, genre un prisme étoilé, là, en miroir, donc très anguleux. Et donc, le spectateur a à circuler à travers,
entre le prisme et
entre le photos. En fait, le prisme étant au centre, donc entre les deux cercles, et on se retrouve vraiment dans un univers. Donc, tragédie fantôme, c'est un peu l'évocation, ben, selon l'auteur, donc c'est les blessures psychologiques qu'on traîne avec nous depuis toujours. Et je pense que le thème blessure psychologique est vraiment bon, parce que quand on arrive là, on ressent un malaise, là, mais vraiment malaise. Ce sont des images, pour la plupart, qui ont été, bon, photographiées, soit argentiques ou soit numériques, retravaillées avec Photoshop, et ben, on sent aussi le travail dans Photoshop. Il y a parfois des photomontages, il y a des ajouts de traits un peu à la manière comme si c'était grafté, donc comme si c'était fait à l'aérographe. Donc on sent donc ce trait qui est un peu anguleux, voire violent, là, puisque si
parce qu'il est rouge, hein, le trait.
En fait, tout est en noir et blanc, sauf une image qui est celle qu'on retrouve justement sur le carton d'invitation. Donc, juste pour vous en donner un bref détail, donc il s'agit d'une image d'un personnage qui porte un masque à gaz et qui tient dans les mains une poupée. Et là, on retrouve ce trait-là, donc ce trait très spontané, rapide, à la limite... presque fébrile, agressant, noir et avec une touche de rouge. Mais la touche de rouge, c'est vraiment exclusivement sur cette pièce-là, sur cette image-là qu'on la retrouve. Sinon, en général, tout est en noir et blanc. Donc, c'est 10 panneaux. Et là, on a à circuler à travers ces panneaux-là. Et à un moment donné ou l'autre, on se retrouve en face du miroir. Puis le miroir, étant donné que c'est un miroir anguleux, donc on peut se retrouver, le spectateur se retrouve avec derrière lui, donc quand même plusieurs panneaux. Donc, on se retrouve au sein de cet univers-là, exactement. Et ça crée donc, ben moi, ça m'a créé cet effet-là, mais c'est pas nécessairement ce que ça va créer à tous, un effet un peu de malaise, parce qu'effectivement, Caroline Guindon a essayé de reproduire, c'est pas nécessairement ses blessures, je dois le préciser, là, ses blessures psychologiques, là, mais ce sont des craintes, des souvenirs qu'on traîne, ou encore des peurs qu'on traîne depuis toujours, des choses qui sont enfouies, cachées, à la limite secrètes.
Dans l'irrationnel, là. Et, exactement, comme la peur, ben, un peu de se faire prendre les pieds.
Oui, ben en fait, c'est ça. Il y a beaucoup un thème qui est relié souvent à l'enfance, ou encore, on voit beaucoup de personnages avec des masques à gaz, ou encore, il y en a une image qui est assez, pour moi, qui est assez évocante. C'est un personnage, un individu qui est dans une cage, qui porte un masque et qui se retrouve dans un champ désert. Donc, ça fait un peu là, l'image d'être prisonnier de soi-même. Donc, c'est quand même assez troublant. Puis, ben, l'évocation à l'enfance est quand même omniprésente. On retrouve, entre autres, des espèces d'images, je peux pas vraiment dire c'est quoi, mais on dirait mi-enfant, mi-fantôme, mi-robot, là, qu'on retrouve. Il y a une ambiance qui règne, on pourrait dire post-apocalyptique.
Oui, puis à la limite, un peu pas monstrueux, mais tu sais...
Ben, pas monstrueux, mais il y a un petit côté, moi j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté BD, mais justement, là, les BD japonaises un peu post-apocalyptiques ou quelque chose comme ça. Puis, le thème de l'enfance quand même est présent, puisque quand on parle de blessures psychologiques, de peur, souvent c'est relié directement à l'enfance. Puis là, il y a ça, il y a la présence de certains objets aussi qui évoquent l'enfance, la poupée, entre autres, dans une de ces images-là. Et une autre qui est assez troublante, c'est un cheval à bascule qui se retrouve en premier plan et qui a été carbonisé, donc brûlé. Oh. Juste ça, en partant,
c'est
dur, assez troublant.
Comme image.
Et il se retrouve, ben c'est un photomontage, donc il se retrouve dans un contexte où c'est comme s'il avait été abandonné dans une espèce de terrain vague, où est-ce que tout ce qu'on y retrouve, c'est des espèces de graffitis très provoquants, choquants. Donc le contexte, le choc entre l'image même du cheval à bascule, qui est peut-être le symbole de l'enfance universelle, avec cette texture carbonisée-là et complètement abandonné dans un terrain vague.
Décontextualisé,
en fait. Effectivement. Donc ça fait, en tout cas, ça m'a troublée. C'est une des images qui m'a parlé le plus. Sinon, il y a beaucoup, justement, là, l'aspect, ben, justement, là, fantôme, là. L'image est souvent travaillée, donc, par couche. Donc, ça donne un effet spectral, je ne sais pas si on peut dire ça.
Tragédie fantôme, hein,
tragédie,
ça dit.
Tragédie, il y a vraiment, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Et, bon, donc, c'est quand même... c'est pas si grand que ça, mais c'est assez imposant. Les images sont vraiment de fortes dimensions, là. Et là, c'est circulaire, on circule. Et plus on se rapproche du noyau, qui est le miroir, bien, on sent qu'il y a eu une installation sonore qui a été annexée. Donc,
pour
il y a des haut-parleurs.
À l'ambiance.
Bien, en fait, l'ambiance sonore est comme contrastante avec les images. On a mis, ben là, j'ai pas pu nécessairement reconnaître la musique, mais il s'agit de musique classique. La jeune fille qui était à la galerie quand je suis allée visiter, elle m'a dit que c'était probablement du Beethoven. Là, je peux pas affirmer. Elle-même, elle pouvait pas me l'affirmer. Mais donc, c'est une musique qui contraste avec l'effet, donc, assez prenant, là, des images de Caroline Guindon. Et cette musique-là qui est comme plus douce, qui se veut comme un peu berçante, là. Donc, c'est ça. J'ai trouvé que le travail se tenait bien quand même. C'est un... Je rappelle, une installation. On le voit là, vraiment, là, les panneaux, même les panneaux sont pas sont semi-circulaires. Donc, vraiment, c'est fait pour circuler à travers cette espèce d'ensemble-là.
D'entrer vraiment dans la tragédie.
Exactement.
Finalement, d'entrer dans le monde fantomatique et de s'y plonger de plus en plus.
Exactement. Puis, ça vaut la peine vraiment de prendre le temps de s'installer aux différents angles que nous offrent, les possibilités que nous offre le miroir, pour voir un peu c'est quoi justement cette énergie-là, cette ambiance-là que ça crée, le tout. Je crois qu'elle a bien réussi, en tout cas, à justement faire sentir là, ce trouble psychologique-là. Puis, donc, c'est là, à la galerie, jusqu'au 14 novembre. Donc, si il y a des intéressés, ça vaut la peine.
Ben oui, si vous faites votre tournée un petit samedi après-midi,
exactement,
vous allez dans les centres d'artistes.
Exactement. Pour encourager aussi quelqu'un qui commence sa première exposition solo, là. Donc,
ouais.
Je trouve que c'est
donc
réussi.
Donc, c'est un travail à découvrir. Merci beaucoup, Dominique. Si vous êtes intéressé, je répète, c'est Caroline Guindon avec Tragédie fantôme, présentée à la Galerie des arts visuels de l'Université Laval, à l'édifice La Fabrique sur le boulevard Charest, jusqu'au 14 novembre. On s'en va en pause audio. On écoute un autre extrait de la pièce, j'en oublie le titre, de la pièce En place, tirée de l'album Tout le monde en place pour un set américain, sur les ondes de CKRL 89.1. Alors voilà qui termine notre parcours audio de cette édition de l'aérospatiale du 19 octobre 2010. D'un coup, vous avez oublié la date et ou l'année. Je le répète, la suggestion, c'était celle d'Éric Dorion. C'était le disque Tout le monde en place pour un set américain qui rassemble Xavier Charles, Christophe Carol, Diane Labrosse et Martin Tétrault. C'est déjà pratiquement la fin de l'émission. Comme à l'habitude, on va vous présenter un peu des expositions à aller voir ou encore des événements. Et là, ces temps-ci, il y a plusieurs événements. On pourrait presque dire que ça pullule à Québec en ce moment dans le cadre du 10e anniversaire des productions Rhizome dont on parlait plus tôt en début d'émission. Il y a la rétrospective de la série Phonème au Studio P qui est présentée demain à 20h. C'est gratuit. Toutes les activités qui entourent le 10e anniversaire de Rhizome sont gratuites. Sinon, si vous voulez aller voir à Tombe le spectacle de performance performance médiatique de poésie, c'est à la salle multi de Méduse, samedi 23 octobre à 19h30, les billets au coût de 17$. Demain soir aussi à 19h30, conférence du Gréco à Goya, thème, genre et fonction de la peinture espagnole au siècle d'art par Luis de Mura qui est professeur titulaire au département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques de l'Université Laval. C'est gratuit. Vous aimez la vidéo? Il y a Vidéo Femme demain à 10h au Musée de la Civilisation, à 18h, pardon. Ou vous vérifierez sur Internet, j'ai mal noté mon information. Il y a une soirée sur la parole des femmes, en fait, autour de la Révolution tranquille. Une animation par Françoise Guénette avec Lise Bonenfant, Nicole Giguère, Diane Amoureux et Anne-Claire Poirier. Outre ça, il y a toujours des expositions. Chez la Serge, je le répète, François Chevalier, présenté jusqu'au 7 novembre. Il y a le travail de Luis Armando Garcia Garza, Viento del Norte, qui est présenté à la Chambre Blanche jusqu'au 31 octobre. Dernière semaine pour voir l'exposition Une pièce de François Simard à la galerie Le 36. Chez Zara, une toute nouvelle exposition depuis vendredi dernier. En fait, le collectif Tout est parfait, composé de Christine Como, Guillaume Adjuteur-Provost, Isabelle Demers, Amélie, Laurence Fortin, Cynthia Thibault, Émilie Roy, Peyo, Élie Séry et Rémi Cosnier, plusieurs artistes qu'on connaît ici à Québec, donc expose chez Zara. Finalement, le collectif Relève Québec, là c'est vraiment la semaine de Guillaume Adjuteur-Provost, mais le collectif est composé de lui-même, de Vicky Sabourin et d'Alexandre Janson, présente l'exposition « Changement d'identité, œuvre de fiction » à la Galerie Vue. Sur ce, je vous invite encore à nous envoyer vos commentaires, vos suggestions, vos réflexions à notre toute nouvelle adresse Internet aerospatiale.ckrl@gmail.com. Je remercie Jacques Gignac pour la mise en onde. Je remercie Dominique Savoie pour sa chronique. Merci beaucoup, Dominique.
Merci à toi.
Merci à Éric Dorion encore pour ses suggestions cette semaine. Et nous, on vous laisse en compagnie de François Fontaine qui anime l'émission Les Phares à Brume, émission qui entame les mardis Poésie et Nostalgie sur les ondes de CKRL 89.1. Bonne soirée à tous!